Villiers de l'île Adam. L'amour du naturel. En ses excursions matinales dans la forêt de Fontainebleau, M. C., le chef actuel de l'État, par un de ses derniers levers de soleil et en vaguant sur l'herbe et la rosée, s'était engagé en une sorte de val du côté des gorges d'Apremont. Toujours d'une élégance rectiligne, très simple, en chapeau rond, en petit frac boutonné, l'air positif, n'ayant dans son incognito rien qui rappelât les allures du précédent Numa, bref, n'excédant pas en sa modeste distinguée l'aspect d'un tourisme officiel, il se laissait aller par hygiène au charme de la nature. Soudain, il s'aperçut que la rêverie avait conduit ses pas devant une assez spacieuse cabane, coquette avec ses deux fenêtres au contrevent vert. S'étant approché, M. C. crut reconnaître que les planches de cette demeure anormale étaient pourvues de numéros d'ordre, et que c'était un genre de baraque foraine louée sans doute à qui de droit. Sur la porte était inscrit en blanche capitale ces deux noms, Daphnis et Chloé. Cette inscription le surprit. Par une curiosité souriante, mais discrète, bref, sans songer le moins du monde à laïciser cet ermitage, il heurta poliment à la porte. « Entrez !» crièrent de l'intérieur deux fraîches voix d'enfant. Il toucha le loquet. La porte s'ouvrit pendant qu'un intermittent rayon de soleil, à travers les feuillages, illuminait ainsi que l'intérieur de l'idyllique habitation. Monsieur C., sur le seuil, se voyait en présence d'un tout jeune homme aux blonds cheveux bouclés, aux traits de médaille grecque, au teint mat, aux sceptiques yeux bleus, dont le fin regard offrait cette je ne sais quoi de railleur qui spécialise le fond des prunelles normandes, et d'une toute jeune fille au visage ingénu, d'un ovale pur, couronné de beaux cheveux bruns tressés. Ils étaient vêtus l'un et l'autre d'un complet de deuil en étoffe de campagne, d'une coupe que le bien pris de leur personne rendait passable. Tous deux étaient charmants, et leur air triste n'éveillait pas, chose étrange, l'aversion. Revenant de maint voyage, le chef de l'État se trouvait donc un peu malgré lui, tout heureux d'apercevoir d'autres visages que ceux des préfets, des sous-préfets et des maires. Cela lui reposait la vue. Daphnis était debout contre une table rustique. L'aimable Chloé, regardant sous ses cils abaissés, l'hôte inattendu, se trouvait assis sur une couchette de fer, nouveau système au matelas de varech, au drap blanc et rude, au double oreiller. Trois chaises en sparterie, quelques objets de ménage, des plats et des tasses de faïence en imitation de vieux Limoges, et sur la table de brillants couverts entourés sans Melchior, complétaient l'ameublement du réduit nomade. « Étranger, dit Daphnis, soyez le bienvenu, vous qui entrez en cet inespéré rayon de soleil. Vous déjeunez avec nous sans façon, n'est-ce pas? Nous avons des œufs, du lait, du fromage, du café même. Chloé, vite un couvert de plus. » Les puissants de la terre aiment les choses simples et imprévues, et se prêtent volontiers au charme de l'incognito chez les humbles. Devant pareil accueil, M. C. ne pouvait guère se refuser d'être aimable, et par forme de distraction, de se laisser aller à détendre un peu, pour cette fois et par exception, le rigorisme de son caractère. « Voici, pensa-t-il, deux jeunes excentriques échappés de quelque coin de Paris, et qui ont adopté cette ingénieuse manière de passer les vacances. Peut-être sont-ils plus amusants que mon entourage. Voyons. » « Mes jeunes amis, répondit-il en souriant, de l'air d'un roi de jadis entrant chez les bergers, J'aime le naturel et j'accepte votre offre champêtre. » On prit place autour de la table où Chloé s'étant empressée, le repas commença sur le champ. « Ah, le naturel !» soupira Daphnis avec un profond soupir. « C'est la seule intention que nous sommes ici. Oh, nous le cherchons d'un cœur sans détour, mais en vain. » Monsieur C. les regarda. « Mais comment, mes jeunes amis ? Mais il vous environne, il vous enveloppe ici, le naturel de toutes ces joies pures, de tous ces produits agrestes. Tenez, l'excellent lait, les fraîches tartines. » « Ah, dit Chloé, cela c'est vrai, bel étranger. Le lait, on peut le boire, car il est fait, je crois, avec d'excellentes cervelles de mouton. » « Quant aux tartines, murmura Daphnis, au bosquier du pain, vous savez, avec les levures nouvelles, on n'est jamais sûr. Mais quant au beurre, j'avoue qu'il m'a paru d'une margarine intéressante. Si vous préfériez, toutefois, le fromage, en voici un de confiance, où le suif et la craie n'entrent que pour un tiers à peine. Il est d'invention nouvelle. » À ces paroles, Monsieur C. considéra plus attentivement ces deux jeunes amphitryons. « Et vous vous appelez Daphnis et Chloé ? » dit-il. « Oh oui, ce sont nos petits noms seulement, » répondit Daphnis. « Nos familles, jadis à l'aise, habitaient à Paris, aux Champs-Élysées, lorsqu'une subite conversion les réduisit au travail. Donc, récent avocat, j'allais bailler mon stage comme tout le monde. Et Chloé, studieuse et déjà doctoresse, étudiait pour devenir sage-femme, lorsqu'un petit héritage nous a permis de nous unir tout de suite, sans attendre la clientèle, et d'essayer de reprendre, selon nos goûts natals, en cette vieille forêt, notre existence du temps de Longus. Mais c'est difficile aujourd'hui. « Quoi, mais vous ne mangez plus, cher étranger ? Voulez-vous deux œufs au miroir ? Oh, ceux-ci sont à la mode. Ils proviennent de l'exportation, vous savez, de ces 3 millions d'œufs artificiels que l'Amérique nous expédie par jour. On les trempe dans une eau acidulée qui fait la coque. Oh, c'est instantané. Croyez-moi, goûtez-y. Nous prendrons le café après, il est excellent. » C'est de cette fausse chicorée, premier choix, dont la vente annuelle, rien qu'à Paris, s'élève après les totaux officiels à 18 millions de francs. Ne vous refusez pas, c'est de bon cœur et sans cérémonie. » Monsieur C., dont la curiosité, malgré lui, s'éveillait à ses accents juvéniles, détourna diplomatiquement la conversation pour éviter avec le plus de politesse possible de répondre à l'offre cordiale de ses hôtes. « Un petit héritage, » dit-il, avec un air d'intérêt sympathique. « En effet, vous êtes vêtus de deuil, chers enfants. »« Oui, nous portons celui de notre pauvre oncle Polémon, » gémit Chloé, en essuyant une invisible larme. « Polémon, » dit Monsieur C., cherchant dans ses souvenirs. « Ah oui !» Celui qui, pareil à Silène, était bon buveur de clairet dans le temps des légendes. Oui, lui-même, soupira Daphnis. Aussi ne s'éveillait-il chaque aurore qu'avec la bouche de bois, le digne suppôt de Bacchus. Il aimait le vin naturel, or, s'étant fait adresser en sa chaumine une feuillette de ce fameux vin de propriétaire, vous savez. « Oui, bel étranger, » appuya Chloé d'une musicale petite voix de professeur, « une feuillette de cette mixture si bien tartrée, plâtrée et dûment arseniquée que 400 ou 500 gens modernes en sont décédés, de ce vin généreux que l'on boit en France chez les artisans en chantant d'un cœur léger la chanson célèbre « Je songe en remerciant Dieu » qui n'en ont pas en Angleterre. » « En sorte que, » reprit Daphnis, « L'être suprême l'ayant rappelé à lui le soir même de la mise en bouteille, notre oncle Polémon s'est rendu à cet appel au milieu d'atroces coliques, l'infortuné vieillard. Et ceci en nous léguant quelques drachmes, pardon, en vous fumez peut-être, cher étranger. Voulez-vous un de ces cigares? Ils sont vraiment passables et de belles mines. Oh, toujours importation d'Amérique. C'est en feuille de papier trempée dans une décoction de nicotine épurée, provenue des meilleurs bouts de cigares de la Havane. On en vend de 2 à 3 millions par mois, vous savez, rien qu'en France. Ceux-ci sont de première marque, au dire même de la régie. Pour le coup, monsieur C., croyant démêler en ces derniers mots une vague intention d'ironie à l'adresse du progrès, crut devoir prendre un peu de son air officiel. « Merci, dit-il, mais s'il est vrai que quelques abus se soient hélas glissés dans l'industrie moderne, en s'adressant bien, l'on trouve du vrai, toujours. D'ailleurs, à votre âge, qu'importent les vains plaisirs de la table ? Ici, surtout, au milieu de cette nature vivante, de ces magnifiques et vivaces arbres, par exemple, dont les ramures séculaires, l'odeur s'allume. Plaît-il, cher étranger ? Répondit Daphnis en ouvrant de grands yeux. Quoi ? Vous ignorez donc ? Mais ces superbes chênes, ces hauts mélèzes qui ont abrité tant de royales amours, ayant subi durant certaines nuits d'un récent hiver 5 ou 6 degrés de froid de plus que n'en pouvaient supporter leurs racines, ceux-ci, au rapport même des inspecteurs des eaux et forêts de l'État, sont morts en réalité. Vous pouvez voir l'entaille officielle qui les marque pour être abattus l'année prochaine. Oh, ils finiront dans des cheminées de ministère. Ces feuillets sont les dernières et ne proviennent plus que de la vitesse acquise. Ce n'est qu'une brillante agonie. Il suffit à un connaisseur de jeter un coup d'œil sur leur écorce pour savoir que la sève ne monte plus, en sorte que, sous l'apparence vivante de leurs ombrages, nous nous trouvons en réalité entourés d'innombrables spectres végétaux, de fantômes d'arbres. Les anciens arbres, voyez-vous, nous quittent, place aux jeunes. Un nuage passa sur le front cependant mathématique de M. C. À travers les hauts branchages, au dehors, une petite ondée froide cliquetait. « Oui, en effet, je crois à présent me souvenir, murmura-t-il. Mais n'exagérons rien, et n'examinons rien de trop près, si nous voulons distinguer quelque chose. Oui, il vous reste cette exubérante nature estivale. Mais comment, se récria de nouveau Daphnis, mais comment, cher étranger, vous trouvez naturel en été où nous passons nos après-midi, ma pauvre Chloé et moi, à grelotter l'un auprès de l'autre? Oui, l'été n'est pas des plus chauds, en effet, cette année, reprit M. C. Eh bien, levez vos regards plus haut, jeunes gens. Il vous reste la vue de ce vaste ciel intact et pur. Un ciel intact et pur, où se croisent toute la journée des essaims de ballons pleins de messieurs éclairés. Oh, c'est plus un ciel naturel, cher étranger. Mais la nuit, à la clarté des astres, au chant du rossignol, vous pouvez oublier. Mais c'est que, murmura Daphnis, d'interminables raies électriques parties du polygone traversent l'ombre de leurs immenses balais de brouillard clair, et cela modifie à chaque instant la clarté des étoiles et frelate la belle lueur lunaire sur le bois. La nuit n'est plus naturelle. Quant au rossignol, soupira Chloé, les sifflets continuels des trains de Melun les ont épouvantés. Ils ne chantent plus, bel étranger. Oh, jeunes gens, s'écria M. C., vous êtes aussi bien pointilleux. Mais si vous aimez tant le naturel, que ne vous êtes-vous fixé au bord de la mer, comme jadis? Le bruit des hautes vagues, les jours d'orage. La mer, cher étranger, dit Daphnis, mais c'est que nous n'ignorons pas qu'un gros câble en agnès, d'un bout à l'autre, l'immensité bien surfaite. Il suffit, vous le savez, d'y verser un ou deux barils d'huile pour en apaiser les plus hautes vagues à près d'une lieue de ronde. Quant aux éclairs de ces orages, du moment où, du centre d'un cerf-volant, on peut le faire descendre dans une bouteille, la mer aujourd'hui ne nous paraît plus si naturelle. En tout cas, dit Monsieur C., les montagnes restent pour les âmes élevées un séjour où le calme. Les montagnes, répondit Daphnis, mais lesquelles? Les Alpes, par exemple, le Mont-Cenis, avec son chemin de fer qu'il traverse de part en part comme un rat, et qui, de sa vapeur, enfume comme un fétide encensoir ambulant les plateaux jadis verdoyants et habitables. Les trains express parcourent du haut en bas les montagnes avec des roues à cran d'arrêt. Mais ce n'est plus naturel, ces montagnes-là. Il y eut un moment de silence. Alors, reprit bientôt Monsieur C., résolu à voir jusqu'où tiendraient les paradoxes de ces deux élégiaques amants de la nature, alors, jeune homme, que comptez-vous faire? Mais y renoncer, s'écria Daphnis, suivre le mouvement. Et pour vivre, faire, par exemple, de la politique, si vous voulez, cela rapporte beaucoup. À ce propos, M. C. tressaillit et réprimant un éclat de rire, les regarda tous deux. « Ah ah !» dit-il vraiment. « Et si je ne suis pas indiscret, que voudriez-vous être en politique, Monsieur Daphnis ?»« Oh !» dit tranquillement Chloé, toujours d'une exquise voix doctorale et terre à terre, « puisque Daphnis représente en soi le parti des ruraux mécontents, bel étranger, je lui ai conseillé de se porter à tout hasard en candidat exotique dans la circonscription la plus arriérée de ce pays. Cela se trouve. Or, que faut-il de nos jours aux yeux de la majorité des électeurs pour mériter la médaille législative? Savoir se garder, tout d'abord d'écrire ou d'avoir écrit le moindre beau livre, savoir se priver d'être doué en aucun art, d'un immense talent, affecter de mépriser comme frivole tout ce qui touche aux productions de pure intelligence, c'est-à-dire n'en parler jamais qu'avec un sourire protecteur, distrait et placide, savoir habilement donner de soi l'impression d'une saine médiocrité, pouvoir tuer le temps chaque jour entre 300 collègues, soit à voter de commande, soit à se prouver les uns aux autres que l'on est au fond, que de moroses rambleurs dénués, sauf rares exceptions, de tout désintéressement. Et le soir, en mâchonnant et cure-dents, regarder la foule d'un œil atone en murmurant « Bah, tout s'arrange, tout s'arrange !» Voilà, n'est-il pas vrai, les préalables conditions requises pour être jugé possible? Et une fois élu, l'on éprouve 9 000 francs d'appointement, et le reste, car on ne se paye pas de mots à la Chambre. L'on s'appelle l'État, et l'on décerne entre-temps un ou deux brillants bureaux de tabac, sa chère petite Chloé. Tout ça n'est pas inepte, je trouve, mais c'est un métier facile. Pourquoi n'essaierais-tu pas, Daphnis? Eh, dit Daphnis, je ne dis pas non. Oui, c'est une question de frais d'affiche et de démarche dont on pourrait à la rigueur surmonter l'écœurement. Après tout, s'il ne s'agissait que d'avoir une opinion pour enlever la chose, tenez, chers étrangers, mettons-les toutes en votre chapeau rond et tirez au hasard. Vous devez avoir la main heureuse, je sens cela. Vous amenez la meilleure d'entre elles, je parie. Celle qui sera, comme on dit, l'épingle du jeu. D'ailleurs, m'est avis qu'aussi plus tard, Une autre me devenait plus plaisante, me souriait davantage. Peu, autant où elles sont dans cette époque, pour ce qu'elles pèsent et produisent, je ne me donnerais même pas la peine d'en changer. Les opinions en ce siècle ne sont plus naturelles, voyez-vous. Monsieur C, en homme affable, en esprit éclairé, condescendit à sourire de ces innocents paradoxes qu'excusait à ses yeux l'âge de ses précoces originaux. Au fait, monsieur Daphnis, dit-il, vous pourriez représenter le parti du cynisme loyal, et à ce titre réunir bien des suffrages. Sans compter, reprit Chloé, que, si je dois en croire, bel étranger, le bout de journal qui enveloppait le fromage ce matin, plusieurs localités chercheraient à faire équilibre en inventant quelqu'un, jusqu'à présent introuvable, à la gênante influence de certains généraux devenus l'engouement public, le député à la mode et dont la politique. Un général, dites-vous, Chloé, interrompit Daphnis avec étonnement. Un général qui fait de la politique et qui est député, ce n'est donc pas un général naturel. Non, dit Monsieur C, plus grave malgré lui cette fois. Mais concluons, mes jeunes amis, votre franchise d'adolescent un peu bizarre mais aimable a gagné ma sympathie et je dois à mon tour me faire connaître. Je suis l'actuel chef de l'État français, dont vous me semblez de trop ironiques citoyens, et je prends bonne note, monsieur Daphnis, de votre prochaine candidature. Entr'ouvrant son frac, monsieur C laissa voir entre son gilet et sa belle chemise blanche empesée et rectangulaire cette aune de larges rubans de noir rouge qui va si bien à ses portraits et qui ne laisse aucun doute sur les augustes fonctions de qui le porte. Cela remplace la couronne sans choquer. Tiens, le roi! S'écrièrent à la fois Daphnis et Chloé, se levant plein de stupeur et de vague respect. Jeunes gens, il n'y a plus de roi, dit-il avec froideur. Monsieur C. Cependant, j'ai les pouvoirs d'un roi, quoique. Chantant, murmura Daphnis avec une sorte de condoléance, vous n'êtes pas non plus un roi naturel. J'ai du moins l'honneur de présider une république naturelle, répondit plus sec Monsieur C en se levant. Daphnis toussa légèrement à ces mots, mais sans interrompre par déférence, n'étant pas encore député. Comme tel, ajouta Monsieur C, je vous octroie, en retour de votre hospitalité gracieuse et par exception, licence pleine et entière d'occuper, sans être inquiété par nos gardes, et ceci durant les vacances de l'exercice 1888, ce Val désert, sis en l'une des principales forêts de l'État. Puissé-je, l'heure venue, vous devenir plus utile, jeunes attardés d'une légende qu'hélas le progrès, je le vois, surannise. Que béni soit le jour, commença Daphnis. Et le roi salua les deux bergers et se retira d'un pas égal entre les grands arbres défunts vers le vieux palais lointain, laissant le pseudo-couple de Longus quelque peu saisi de l'aventure. Rentré en la royale demeure où provisoirement Monsieur C occupe, je crois, les appartements de Saint-Louis, les moins inhabitables d'ailleurs de cette hausse ancienne. Il n'a plus de raison d'être que, comme rendez-vous de chasse ou de villégiature pittoresque, l'honorable président du régime actuel, en fumant un vrai cigare dans l'oratoire du vainqueur d'Almansoura, de Taillebourg et de Saintes, ne pouvait s'empêcher de reconnaître en soi-même qu'au fond, l'amour des choses trop naturelles n'est plus qu'une sorte de rêve de moins réalisable. Bon à défrayer tout au plus le verbiage des gens en retard, et que Daphnis et Chloé, pour mener aujourd'hui leur train du passé, leur simple existence champêtre, pour se nourrir enfin de vrai lait, de vrai pain, de vrai beurre, de vrai fromage, de vrai vin, enfin dans de vrais bois, sous un vrai ciel, en une vraie chaumière, et liés d'un amour sans arrière-pensée, auraient dû commencer par mettre leur dite chaumière sur un pied d'environ 25 000 livres de rente, attendu que le premier des bienfaits dont nous soyons positivement redevables à la science est d'avoir placé les choses simples, essentielles et naturelles de la vie hors de la portée des pauvres.